CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Votre, l'émission politique du vendredi sur CFM Radio. Entre continuité et alternative, à l'heure où la ville se prépare à un nouveau rendez-vous électoral majeur, les municipales de 2026, dans moins d'un an et dans un contexte de transition à la tête de la mairie marqué par le passage de relais entre Brigitte Barège, élue députée, et Marie-Claude Berly, désormais maire de Montauban, les enjeux pour l'avenir de la ville n'ont jamais été aussi cruciaux. Notre invité aujourd'hui en studio, c'est Arnaud Hillion, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste, conseiller municipal et communautaire d'opposition, chef de file du PS pour les prochaines élections municipales. Nous allons explorer avec lui les grands dossiers qui traversent la ville, l'urbanisme, la sécurité, l'économie, la transition écologique, si nous en voulons le temps, et la solidarité, mais aussi la gouvernance et les perspectives politiques qui s'annoncent. Quels sont les défis à relever? Quelles alternatives pour répondre aux attentes des Montalbanais? Comment réinventer la démocratie locale et fédérer autour d'un projet commun? Quelle vision a-t-il de Montauban, ses propositions, mais aussi sa méthode pour rassembler et convaincre dans un paysage politique local en pleine recomposition? Bonjour Arnaud Hillion.
Bonjour Kader Youb, merci pour cette invitation.
Bienvenue à vous sur CFM Radio. Merci. Alors, on a plusieurs, vous l'avez noté, plusieurs chapitres à voir avec vous. Mais
un programme copieux que vous m'avez prévu là.
Oui, mais avant, et comme c'est la tradition Arnaud Hillion, je voudrais savoir ce qui vous a marqué ces derniers jours, si vous aviez une image, un fait d'actualité qui a retenu votre attention, quelque chose qui vous a marqué, quel serait-il ?
Alors, je ne peux pas ne pas évoquer la situation géopolitique mondiale qui est dramatique et qui nous inquiète tous, mais plutôt que de dire des choses consensuelles là-dessus, je vais vous parler d'un autre sujet plus, peut-être plus anecdotique et qui pourtant sera beaucoup plus structurant à long terme pour l'humanité. Là, cette semaine, la nouvelle est sortie que les objectifs de climat de Paris, l'objectif de contenir à une hausse des températures à l'échelle mondiale de 1,5 degré serait explosé d'ici 3 ans. Donc on va dans le mur, on le sait. Ces objectifs, qui sont des objectifs qui vont toucher notre santé à l'avenir, notre économie, notre vie de tous les jours. Là, on est en pleine vague de chaleur. Mmh. J'ai pas besoin d'expliquer. Tout le monde souffre aujourd'hui, depuis hier, et peut-être pour quelques jours encore, des conditions au quotidien. Et donc, ces choses-là sont des choses qui vont structurer l'avenir de notre, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants. Il y a un enjeu, là, essentiel à s'adapter, à adapter nos villes, à adapter nos pratiques au quotidien pour pouvoir vivre dans un monde vivable. Et bien sûr, tenir cet objectif de limitation, donc, qui à 1,5 degré, c'est raté. Hein, c'est, factuellement, les scientifiques nous l'ont expliqué ces derniers jours. Mais il faut limiter au maximum chaque dixième de degré qu'on ne gagnera pas en plus. Eh bien, c'est des vies sauvées, c'est du confort au quotidien. Et c'est la possibilité de continuer à vivre avec une certaine douceur de vivre que nous apprécions, notamment ici dans le sud-ouest et à Montauban.
Justement, ça c'était donc votre éditorial, votre fait qui vous a marqué, Arnaud Hillion. On va rester donc sur cette thématique, la transition écologique et les mobilités qui vont de pair. Montauban s'est engagé comme d'autres villes dans la transition écologique, mais certains habitants, dont vous, Arnaud Hillion, vous jugez les avancées insuffisantes. Quelles actions prioritaires pour réduire l'empreinte carbone de la ville? Quels sont les projets qu'il faut mettre en œuvre rapidement pour Montauban?
Une des choses de base qu'il faut faire, peut-être la première, c'est un grand plan de circulation. Donc la façon dont on se déplace dans la ville, la façon globale dont on se déplace de plus en plus de manière hybride. On est conducteur de voiture, on marche à pied, on prend le vélo pour certains, on prend le bus, on prend le train, on va au travail en train pour aller jusqu'à la gare, on se déplace de chez soi jusqu'à la gare. Comment on fait ça? Comment on évolue au quotidien dans la ville? Ça, c'est un enjeu fondamental. Et on ne peut pas travailler ces sujets-là juste au doigt mouillé, juste en se disant, ah tiens, là, on n'a qu'à refaire cette rue, et puis celle-là, non, à côté, on ne la refait pas. Ça ne marche pas. Il faut avoir une vision globale. Donc les cyclistes, les gens qui ont choisi d'utiliser le vélo pour se déplacer, je ne parle pas de se faire plaisir le week-end pour aller faire une petite balade. Je parle de prendre le vélo pour se déplacer au quotidien,
aller travailler.
À l'école, aller travailler. Eh bien, pour pouvoir faire ça, et c'est vertueux, parce que quand on est sur son vélo, on produit moins de gaz à effet de serre que lorsqu'on est au volant d'une voiture. Et bien, pour pouvoir switcher sur le vélo, décider de faire ce choix-là, bien, il faut se dire, je vais monter sur mon vélo, je vais mettre mon enfant collégien sur un vélo pour aller au collège, et il ne va pas risquer sa vie au quotidien. Et donc, il faut réfléchir à l'organisation des rues, des croisements, des intersections, pour que ce soit sécure. Et ce travail-là, c'est un travail de dentelle. C'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Il faut le faire en partenariat et en discussion avec les utilisateurs, les usagers, parce que savent ce dont ils ont besoin. Et il faut le faire dans le respect des autres modes de circulation. On ne doit pas privilégier le vélo au piéton, on ne doit pas privilégier le vélo à la voiture. Il faut que globalement, chacun, et la plupart d'entre nous, nous sommes les utilisateurs de tous les modes, beaucoup de modes de transport, nous puissions trouver une façon cohérente de partager sereinement l'espace public. Et à Montauban, on fait le contraire. Fait le contraire. La municipalité en cours fait le contraire. Elle a choisi, vous le savez, Kader, d'interdire l'accès au centre-ville au vélo. C'est un signal qui est particulièrement mauvais. Mais quel signal donne-t-on? C'est par ça qu'il faut faire. Il faut bien entendu, quand on est en milieu plus dense, eh bien, il faut adapter les comportements, il faut ralentir la vitesse, il faut être respectueux, mettre un pied à terre quand c'est vraiment trop dense. Ça fait partie du code de la route, il n'y a pas besoin de rajouter des arrêtés municipaux pour faire de la com et mettre des panneaux très moches d'ailleurs tous les 2 mètres pour expliquer que c'est interdit au vélo. Ça ne va pas dans le bon sens.
Mais par exemple, le boulevard Blaise Doumer qui est ici, pas loin de chez nous, à CFM Radio, ce boulevard qui est en réfection, en rénovation lourde. Est-ce que ça, c'est de nature à vous contenter avec...
Il faut faire les choses en continuité et globalement. On ne peut pas faire du mitage urbain. On ne peut pas décider de faire un petit bout ici, un petit bout là, un autre petit bout là, pour faire des belles photos, des images de synthèse, mettre ces grandes images sur le journal municipal, comme ça on ne parle pas des vrais sujets, et faire du greenwashing. Ça ne suffit, c'est plus possible, c'est pas sérieux. On est en train de ne pas parier sur l'avenir, de ne pas préparer l'avenir en faisant ça. Donc bien sûr que le boulevard sera mieux que ce qu'il n'était, mais enfin, je vous invite à vous balader, regardez les arbres qui ont été plantés, on a des arbres adultes qui arrivent, qui sont déjà plantés, ils sont déjà hauts, et on les met dans un petit bac, un petit contenant de ciment, il y a un peu de terre autour. Est-ce que ces arbres vont pouvoir se développer? Et on sait que les arbres, une allée arborée, on sait que ça fait diminuer de 3-4 degrés la température ambiante, parce que ça dégage, et non seulement ça fait diminuer la température, mais ça crée une atmosphère plus respirable. L'atmosphère est plus humide. Donc on vit mieux. Et il vaut mieux préparer, quand on met à coût de millions d'euros, parce que ça coûte des millions, c'est ce genre d'investissement-là. Quand on fait des choix comme ça de mettre des dizaines de millions d'euros pour refaire de la voirie, eh bien il faut passer à 10, 20, 30, 50 ans. Ces routes qu'on construit aujourd'hui, c'est des routes, ces rues, ces routes, elles seront peut-être, elles ne seront pas reprises complètement avant plusieurs dizaines d'années. Donc quelles essences d'arbres on met? Résisteront-elles à l'augmentation de la température?
Arnaud Hidon, une autre question sur ce sujet, notamment des mobilités, de la transition. Est-ce que les transports en commun, ils sont adaptés à Montauban et aux besoins des habitants? Est-ce qu'il faut davantage, investir davantage? Est-ce que vous êtes toujours aussi, c'est une autre question, pour la gratuité des transports?
Poser la question de l'adaptation, c'est y répondre. Donc bien entendu que c'est sous-dimensionné pour une ville comme Montauban. Après, il faut être réaliste.
Sous-dimensionné.
D'accord. Bien entendu que c'est sous-dimensionné. Le réseau de bus, il n'est pas adapté aux besoins, bien entendu.
Donc il faut intensifier.
Mais il faut être réaliste. La ville de Montauban a été urbanisée depuis des années sous un modèle d'étalement urbain. On est une catastrophe à ce niveau-là. Hein. On poursuit là-dedans. Et donc, effectivement, on ne peut pas avoir... On ne pourra pas, alors qu'on s'étale de plus en plus, construire, mettre en place un réseau aussi dense que celui, par exemple, de Toulouse. Mais par contre, il faut réfléchir à avoir un réseau aussi efficace que possible. Et une des clés, c'est l'intermodalité, c'est les jonctions. Il faut imaginer, c'est pas vrai que les gens ne vont utiliser que le bus pour se déplacer, ou que le vélo, ou que la voiture, ou que le train. Par contre, eh bien, dans un parcours, je répète, par exemple, aller travailler, il y a 25 000 déplacements, aller et 25 000 retours entre Montauban et Toulouse journaliers pour des gens qui vont essentiellement travailler, et il y a des gens qui font le choix, ou pas, de prendre le train. Eh bien là, il faut leur faciliter la vie. Il faut qu'il y ait des lignes de bus qui les amènent vers la gare. Et à la gare, il faut que ce soit facile, si on y va en vélo, de poser son vélo et de ne pas chercher un endroit où poser le vélo. Et si on y va en voiture, il faut qu'on puisse se garer et pas avec un parking qui fait doubler le prix et qui fait qu'on ne peut pas payer parce que c'est trop cher. Ça, les solutions à mettre en place. C'est du concret, c'est du pratico-pratique. Et aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas pensées, pas anticipées. Au doigt mouillé.
Vous avez évoqué l'étalement urbain. C'est un problème que rencontrent beaucoup de communes et de villes. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter cet étalement? Il faut densifier l'offre de logement. Comment on s'y prend?
Il faut partir de l'existant, la première chose. Donc, il y a des erreurs qui ont été faites par le passé, c'est une évidence. On n'a pas pensé, on n'a pas anticipé certaines choses. Mais aujourd'hui, on vit comme on est, là où on est. Et donc, il y a une des choses à faire, c'est pour limiter les transports et pour faciliter la vie quotidienne, c'est de recréer des îlots de vie locaux, des quartiers.
Intramuros.
Oui, des quartiers. Ouais. Ça veut dire que quand on est... aujourd'hui, il y a des zones qui sont construites, qui étaient il y a 30 ans des champs, eh bien, on a construit essentiellement du logement. Bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Quand on habite quelque part, on a besoin d'avoir un boulanger pas loin, des petits commerces pas
loin. Et des services publics.
Des services publics, l'accès à des installations sportives locales. C'est complètement absurde de penser qu'on habite, Falguière, on habite Gasseras et il faut aller jusqu'à la Phobio pour aller taper dans une raquette. Non, ça, il faut quand même réfléchir à quelque chose qui permet d'avoir une vie agréable localement.
La solution, c'est la construction de tours.
La solution, c'est pas la construction de tours. Là, ça serait, vous me parlez, pour Montauban, c'est pas la construction de tours. Ça, c'est peut-être des solutions pour des grandes métropoles. Oui. Mais on n'en est pas là à Montauban. Donc à Montauban, il faut partir de l'existant. Et le choix que font beaucoup de Montalbanais, beaucoup de gens qui, nouveaux arrivants, qui viennent choisir de vivre à Montauban, c'est aussi pour avoir accès à la nature beaucoup plus facilement qu'il n'en aurait dans une grande métropole, pour nous, pour Toulouse notamment. Donc bien entendu qu'il faut garder ce plaisir, cet art de vivre que nous avons, qui est une richesse auquel nous tenons. Donc non, bien sûr, on ne va pas construire des tours.
Mais il y a, vous dites qu'il y a des gens qui veulent venir à Montauban, et c'est la réalité. Toutes les villes d'Occitanie gagnent des habitants. Est-ce que c'est viable, finalement? C'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est viable d'accueillir autant de gens sur un territoire?
Eh bien, oui.
Ça pose beaucoup de questions, notamment en termes d'infrastructures, de services publics.
J'entends, oui. Mais je pense que la réponse... En fait, je n'ai pas les réponses toutes faites, mais je vous invite à consulter les travaux de démographes et de géographes et de gens qui réfléchissent à la façon d'urbaniser le territoire. Et oui, c'est viable. C'est viable si c'est accompagné. Par contre, si c'est anarchique, si on délivre des permis de construire absurdes, comme ça a été fait par la municipalité pour construire à côté du conseil départemental, là où il y avait ce superbe parc que les Montalbanais adoraient, cette espèce de
îlot de verdure avec le ruisseau qui coule.
Oui, il y a le Tesco au côté. C'était un lieu privilégié.
C'est le rond-point Gamard, je crois.
Sur la Hubergouze. Mais bien là, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Maintenant c'est fait. Mais bien entendu, le permis était délivré il n'y a pas 10 ans. C'est une erreur d'avoir laissé faire ça. C'est une erreur. On ne peut pas aujourd'hui faire des choix comme ça. Et il y avait un moyen d'action. On pouvait ne pas délivrer le permis. Aujourd'hui, c'est fait. Il faut vivre avec ça. Donc, c'est pas intelligent. Les choix qui ont été faits ne sont pas intelligents. Il faut redresser la barre. En fait, vous savez, à Montauban, il y a un système. Ça fait 25 ans que cette ville est tenue par Brigitte Barège et ses amis. Là, vous avez dit tout à l'heure, la maire officielle... à côté d'elle, se tenait comme d'habitude, Brigitte Barège, en train de redresser, prendre la parole quand elle veut, corriger ce que dit madame le maire, etc. Bon, donc c'est un système, c'est le système de Brigitte Barège, c'est le système Barège. Nous sommes une barégie avant tout. Et depuis 25 ans, ce système est en place. Et il a pris de mauvaises habitudes, comme souvent quand on s'éternise un peu trop quelque part. Et ces habitudes, on ne sait même plus en sortir. Ils ne savent plus en sortir. ils ne savent plus comment faire pour agir autrement qu'avec les habitudes qui ont été prises. Et donc ça reproduit. Et on va pas dans le bon sens. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, il faut un peu aérer tout ça, souffler, mettre un peu une brise légère qui vienne apporter un espoir nouveau.
Vous avez parlé du conseil municipal d'hier soir. La majorité qui vous a accusé dès hier soir, dès la sortie du conseil municipal par la voix de Brigitte Barège, la députée de Tarn-et-Garonne, et de Marie-Claude Berly, la présidente du Grand Montauban et maire de Montauban, qui vous a accusé de ne pas soutenir les associations qui faisaient l'objet de subventions dans le cadre du budget supplémentaire. Vous n'avez pas
ils
voté.
Ils ne savent plus quoi inventer.
Oui, mais...
je vous réponds. Oui. Mais ils ne savent plus quoi inventer. On est en train... Ça y est, on a switché vers le trumpisme, vers les faits alternatifs. Donc, mais pour de vrai. C'est assumé. En faisant les choix politiques que Brigitte Barège a fait, d'aller rejoindre des gens qui s'inscrivent, qui sont des admirateurs de Trump, des faits alternatifs, des réalités alternatives, eh bien, on y est. Et donc, hier soir, effectivement, vous avez raison, on avait un débat budgétaire, et qu'est-ce que dit M. Deville ? Il dit, nous n'avons pas augmenté les impôts. Chaque fois que M. Deville prend la parole, il dit, nous n'avons pas augmenté les impôts. Et c'est faux ! Ils ont augmenté les impôts. Brigitte Barèche s'était engagée à ne pas augmenter les impôts lors de la dernière campagne municipale. Elle s'était engagée par écrit sur ses documents de campagne. Et dès le premier budget, pim, 3 points de plus d'impôts.
Si Thierry
3
Deville...
points de plus d'impôts sur Montauban, 3 points de plus d'impôts sur le Grand Montauban. Et depuis, Thierry Deville nous raconte que les impôts n'ont pas augmenté.
Mais ils ont augmenté. Pourquoi il vous dit ça, Thierry Deville,
alors ? Parce qu'il ment. Parce que c'est le choix qui est fait de cette espèce de façon de faire de la politique aujourd'hui, qui n'est pas de la politique noble. Mais ça marche. Donc on dit, ah tiens, ça a marché pour Trump, eh bien faisons du trumpisme. Donc on y est. Et donc vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe au moment où on a la délibération habituelle sur les subventions
aux associations ?
Alors je profite, vous m'avez interrogé sur ça, pour vous dire... Nous, l'opposition, nous ne voyons pas les subventions qui sont attribuées. C'est un système qui est complètement opaque, complètement à la main de la majorité. Et on ne sait, quand on demande sur quels critères vous choisissez d'attribuer des subventions, on ne le sait pas. On est incapable. Ils sont incapables de nous répondre. Ça ne se passe pas comme ça partout. Par contre, légalement, dès qu'une subvention dépasse 23 000 euros par an, il faut une décision spécifique du conseil municipal. Et donc, il y avait une décision spécifique du conseil municipal pour les subventions de plus de 23 000 euros. Donc il y avait notamment une subvention pour l'USM et pour le foot à 100 000 euros chacune. Et il y avait d'autres subventions pour, par exemple, Confluence ou les Passions. Et bien entendu, comme d'habitude, et comme toujours, et comme l'ont toujours fait, nous avons bien entendu voté à l'unanimité pour. C'est-à-dire, bien sûr que nous votons pour ces subventions. Et la majorité aussi. Et bien... alors que nous avons voté, elle est actée, nous avons voté pour...
Vous avez voté l'autorisation.
Non, on n'a pas voté l'autorisation.
Pour engager des sommes à destination de ces structures-là.
On a voté.
Pas le budget.
Monsieur Hugues, oui. On a voté ces subventions, comme on le fait toujours. Et là, Madame Barège prend la parole pour nous expliquer qu'en fait, on est en train de voter contre parce qu'on ne vote pas le budget. Mais depuis quand l'opposition vote le budget ? On ne va pas, parce qu'il y a 3 subventions ou 4 avec lesquelles on est d'accord, voter un ensemble de décisions budgétaires, ce qui ne nous vend pas. Les orientations budgétaires de la ville, ça ne va pas. Le budget, il n'y avait pas que les subventions. Dans le budget, il y avait la proposition d'engager, pim, 5 millions de plus parce
pour
d'emprunt. Mais on ne sait pas pourquoi, pour financer ce train de vie qui ne tient pas la route. Donc, là, comme ça, mais comment on fait ? Pim, 5 millions. Et tous les 4 matins, comme ça, décision du maire, parce qu'elle a le droit de décider ça, hop, allez, on va à la caisse d'épargne, on va au crédit mutuel, on va à je ne sais pas quoi, et on revient, allez, 8 millions d'euros, allez, 6 millions d'euros. Mais c'est comme ça qu'on veut financer notre avenir ? Qui va payer ces choses-là ? Qui va payer ces sommes-là ? Mais moi, je vais vous le dire, qui va les payer ? Ce sont nous, nos enfants, nos petits-enfants, et peut-être nos arrière-petits-enfants, parce que maintenant, on emprunte, non, jusqu'à présent, on empruntait au maximum sur 30 ans. Maintenant, on emprunte jusqu'à 60 ans. 60 ans ! Quel âge on aura dans 60 ans ? Quel âge nous aurons dans 60 ans ? Quel âge auront ces gens qui sont à la tête de cette ville et qui prennent ces décisions-là de manière inconséquente, sans regarder ce qui se passera pour plus tard ? C'est après moi le déluge. Voilà ce que c'est, cette gestion. Donc elle est irresponsable. Et comme c'est gênant de parler du fond comme ça, eh bien, on nous coupe les micros. Monsieur Deville m'a fait un sketch pas croyable. À la fin, il m'a dit non, je ne vous redonne pas la parole. Donc ils ne veulent pas que nous parlions. Ils veulent produire le discours, qui est un discours mensonger, trumpiste, de faits alternatifs, et dérouler leur truc. Eh bien, ils le font, c'est absurde, on va dans le mur. C'est à la hauteur et de la dignité de cette majorité-là. Et je vous le dis, ça n'est pas positif pour la ville, ni pour les habitants.
Arnaud Illion, vous êtes donc conseiller municipal d'opposition,
Et je peux peut-être même vous rajouter quelque chose.
Allez-y.
Cette sortie absurde, parce que c'est une sortie absurde, qu'elle aurait pu nous faire chaque année, qu'elle pourrait faire partout, et qu'elle-même, on pourrait lui faire, Magie Barège ou autre, quand elle siège au conseil départemental et qu'elle vote contre le budget, ou quand elle siège au conseil départemental, ou aujourd'hui à l'Assemblée, qu'elle vote le budget, on dit « Ah, ben vous votez contre le budget, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on paye les fonctionnaires. Enfin, » c'est absurde, c'est vraiment absurde. Et elle le sait. Donc cette sortie absurde, qui n'est pas digne, n'est pas à la hauteur de l'animal politique qu'elle est, qui a 25 années derrière elle d'action politique, donc elle sait qu'elle raconte n'importe quoi. Je ne peux pas croire qu'elle ne comprenne pas qu'elle raconte n'importe quoi quand elle est en train de faire ça. Alors pourquoi elle fait ça? Ben, elle fait ça, moi je pense, pour créer un écran de fumée et qu'on ne dise pas, qu'on ne parle pas du fait que pour la première fois, son budget n'a pas été voté à l'unanimité par sa propre majorité. Donc hier soir, le fait notable sur le vote du budget, c'était que la majorité municipale n'a pas voté à l'unanimité pour le budget. Il y a eu 2 abstentions. Et ça, c'est des choses qui montrent que ça se fissure.
C'est un marqueur.
Oui, c'est un marqueur. C'est un marqueur de personnes qui voient bien que le système ne fonctionne plus. Mmh. Ce système barégiste qui a été mis en place, il arrive à la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui va dans le mur.
Ouais, dans moins d'un an, Arnaud Illion, vous avez été désigné tête de liste. En tout cas, vous avez reçu l'investiture de votre parti, le Parti Socialiste, pour conduire la bataille des municipales en 2026. Alors, on se souvient que lors des derniers scrutins aux municipales, vous aviez régé autour de votre personne une large majorité avec les radicaux et les communistes notamment.
Les Verts, Génération, Montauban Citoyenne,
c'était une
Place Publique.
C'était plus
qu'une bouche. Oui.
Est-ce que vous travaillez à cette nouvelle, j'allais dire, pour l'année prochaine? Et comment vont les discussions? Est-ce que vous avez reçu des assurances de vos partenaires?
Mais bien entendu qu'on y travaille. Je veux dire, la responsabilité pour les Montalbanais qui nous font confiance et qui veulent voir ce système s'arrêter, c'est de proposer une union large de la gauche. Moi, j'ai toujours été pour une union large de la gauche. Donc je me retrouve parfaitement dans la formule de Boris Vallot et d'Olivier Faure. C'est l'union de Glucksmann à Ruffin, de Ruffin à Glucksmann. Et ça me va parfaitement. Et je le répète, oui, la proposition politique qu'on avait proposée la dernière fois, qui avait trouvé dans l'électorat un certain retour positif, eh bien, oui, c'était le PRG, Place Publique, les Verts, le Parti Communiste, le Parti Socialiste.
Vous commencez à discuter.
Mais bien sûr qu'on ne commence pas. Nous avons des discussions suivies de travail depuis des mois.
Vous avez des assurances déjà?
Où j'ai des assurances, monsieur Youb,
oui.
Eh bien, promis, je reviens et je vous le dis.
Donc, mais on vous réinvitera.
À ce jour, je n'ai pas de...
Vous n'avez pas d'assurance.
Je ne peux pas vous donner...
Est-ce que vous craignez, alors je vous pose la question autrement, est-ce que vous craignez que vos partenaires, ceux qui étaient partis avec vous lors des municipales de 2022, est-ce qu'ils... S'ils ne sont pas avec vous
Alors, je ne peux pas parler pour eux, mais non, oui. je pense que la responsabilité nous conduira ensemble à proposer une liste d'union de la gauche.
Oui.
Et j'y travaille, et c'est à quoi je crois. Et puis il y a plein d'éléments positifs qui indiquent que c'est ce vers quoi il faut aller et ce vers quoi nous allons.
Est-ce que, par exemple, Jean-Jacques Boyer, qui est le représentant du groupe...
Jacques Boyer, c'est le représentant de Monsieur Macron.
Non, de Monsieur Attal, plutôt.
Oui, Monsieur Macron, un peu. Oui, bon. Aussi.
Et est-ce que il a vocation à venir avec vous sur les municipales?
Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire, mais M. Boyer, je pense que c'est quand même plutôt le représentant de M. Macron, qui ne se retrouve pas la dernière fois, il était contre nous avec M. Macron.
Oui, mais est-ce que. Je reprends les mots de votre secrétaire national, qui dit, Olivier Faure, qui dit sur les municipales, il peut y avoir des arrangements qui ne se.
Non, c'est pas ce sur quoi. Moi, vraiment.
Il nous reste très peu de temps.
Ce sur quoi je travaille, très clairement,
voilà.
C'est une union de la gauche. Le type de périmètre qui était celui la dernière fois.
D'accord.
Mais après, monsieur Youb, Je ne veux pas vous laisser croire, et surtout à nos auditeurs, que ces choses-là se feront entre partis. Il est clair que ce dont on a besoin pour Montauban, c'est une liste et un projet de territoire. Et donc, bien entendu que les partis politiques, c'est important en France. Hein, mais il y a des pays où on nous envie le fait de pouvoir se constituer un parti politique pour pouvoir discuter, mener des choses, etc. Donc, moi, je ne crache jamais sur les partis politiques, quels qu'ils soient. Donc c'est quelque chose qui est important pour la démocratie.
France Insoumise, ils peuvent être avec vous.
Mais la France Insoumise, ils n'étaient pas avec nous la dernière fois.
Est-ce qu'ils pourraient être avec vous là?
Bah écoutez, pour pouvoir être avec nous, il faudrait, en tous les cas, M. Mélenchon, il ne sera pas avec nous. Et moi, la France Insoumise, je suis désolé, il y a des clarifications qui s'imposent sur ce qu'il porte pour pouvoir participer avec nous à ce genre de choses.
Eh bien, alors, Arnaud Mélenchon, je vous propose de nous revoir.
Mais je vous répète, ce sera un projet de territoire qui nous permettra de gagner à Montauban, et plus qu'une alliance de cartels politiques.
Et c'est noté. Merci en tout cas, Arnaud Mélenchon, d'avoir accepté l'invitation au CFM Radio.
Merci.
On se donne rendez-vous vendredi prochain. Merci à tous pour votre fidélité. L'émission a été réalisée par Annel Petit.
Vos podcasts et replays, podcasts et replays, cfmradio.fr.